Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi.
Bonjour, on est en action, notre podcast sur l'activité physique et la santé. Aujourd'hui, je suis vraiment content, on a fait un excellent podcast. On essaie une nouvelle formule avec ma collègue Jade.
Allô, donc ça, moi c'est Jade, je travaille avec Daniel chez Défi Entreprise depuis presque 2 ans. Puis aujourd'hui, c'est ça, là, la formule différente, ça va être plus moi qui va animer ou interviewer Daniel, qui va répondre à des questions, plein de questions différentes là, en lien avec la course à pied. Lui, c'est comme plus le professionnel, kinésiologue, puis moi, je suis la monsieur, madame, tout le monde qui a pas vraiment de connaissances, de compétences là, dans la course à pied. Donc, on a comme vraiment deux visions là, différentes sur la course à pied. Donc, aujourd'hui, le podcast s'appelle La course n'est pas faite pour tout le monde. Puis, dans ce podcast-là, on va parler un peu de comment plus aimer la course, avoir du plaisir si c'est ça notre objectif. Comment être peut-être moins essoufflé, comment avoir moins de points dans les côtes quand on court. Donc, en tout cas, on parle de pas mal de sujets là, dans ce podcast-là. Donc, c'est super intéressant. Donc, on peut y aller maintenant.
OK, c'est parti. Donc, Dan, je vais te lancer une grosse question. Pour commencer, comment on fait pour aimer courir? Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui aiment courir, puis c'est déjà ancré dans leur quotidien. Peut-être qu'il y en a qui voudraient aimer ça plus courir, qui voudraient commencer la course ou c'est ça, plus apprécier la course, parce que sûrement qu'il y en a qui courent et qui haïssent ça ou qui trouvent que c'est une tâche à faire. Comment on fait pour aimer courir?
C'est une très bonne question, Jade. Ben, la première affaire, c'est que c'est pas obligé, c'est pas obligatoire de commencer à aimer la course. Il y a beaucoup de gens qui apprécient la course de façon naturelle, il y a des gens qui apprennent à l'apprécier, puis il y a des gens, je pense, qui l'apprécieront jamais. Il y a rien de grave là-dedans. Si t'apprécies pas la course puis tu penses que tu peux pas l'apprécier, c'est pas grave. Dans le fond, l'important dans la vie, à mon sens, c'est d'être physiquement actif, c'est ça qui donne des bienfaits sur la santé. La course à pied, c'est une bonne activité qui est pratique, que tu peux faire à partir de n'importe où, qui nécessite peu d'équipement. C'est l'activité la plus simple que tu peux faire. C'est une activité qui est bonne pour la santé, qui va te permettre d'améliorer la santé de tes genoux. Si tu le pratiques de façon modérée, ça va améliorer ta santé cardiovasculaire, ça va t'aider à rester actif tout au long de ta vie. Par contre, si tu n'as pas d'intérêt pour ce sport-là, si tu dis « Hey, moi, la course, ça me convient pas, moi, faut que je cours après quelque chose, puis c'est une rondelle de hockey parce que tu aimes ça jouer au hockey, ou ce que tu aimes, c'est la rando ou aller au gym », ben c'est pas si grave que ça. Puis en fait, il n'y a rien de grave là-dedans. L'important, c'est d'être physiquement actif, de trouver un bon mix, là, idéalement, dans ta vie d'activités physiques qui vont solliciter tes muscles, d'autres qui vont solliciter ton cardio, d'autres qui vont solliciter une amplitude de mouvement, ta flexibilité. Fait que, dans le fond, il y a plein de monde qui n'aime pas la course à pied, qui n'aimeront jamais ça, puis c'est bien correct comme ça. Fait que ça, faut se déculpabiliser de ça. Mm-hmm. Si t'aimes pas ça, la course, ben c'est pas si grave. On peut très bien vivre puis être en santé sans aimer la course.
C'est ça. Puis il y a tellement de sports qui existent qu'on n'est pas obligé de se forcer à en faire un.
Exact.
On peut en choisir un autre, mais...
Tout à fait, puis ça m'amène... Je dévie un petit peu du sujet principal, là.
Vas-y.
Mais, tu sais, si t'as des enfants... C'est vraiment pertinent de leur faire essayer plusieurs sports. De un, pour qu'ils trouvent un sport qu'ils apprécient et qu'ils aiment faire. Puis de deux, pour créer un genre de répertoire de moteurs qu'on appelle. Un répertoire de mouvements qu'ils sont capables de répéter. Puis ce qui va leur permettre de commencer des nouveaux sports à l'âge adulte. Puis d'être relativement bon, relativement vite. Je donne un exemple. Mettons l'enfant 1. On va l'appeler comme ça. Lui, il fait juste de la course à pied quand il est jeune. Il fait pas de basket, il fait pas de soccer, il fait pas de gymnastique. il fait que de la course à pied, il commence quand il a 5 ans, puis il fait ça jusqu'à l'âge adulte. Si ce gars-là, à un moment donné, ou cet enfant-là, se fait des amis, puis c'est tous des amis, mettons, qui jouent au tennis, ben ça va être très, très difficile pour lui de commencer le tennis à l'âge de 22 ans, parce que là, il va commencer avec rien, pas de répertoire moteur, pas d'idée de quel mouvement faire. Oui, il va être bon pour se déplacer sur le terrain de tennis, mais ça va être difficile pour lui de commencer à taper la balle comme il faut, de donner un effet à la balle, tout ça. À l'inverse, si t'as un enfant qui a joué au basket, il a joué, mettons, au badminton au secondaire, il a joué au hockey, puis il a fait du squash, mettons, ben cette personne-là va avoir une bien meilleure idée, un répertoire moteur beaucoup plus vaste. Puis, mettons que cette même personne-là arrive, puis à 22 ans, tombe dans un groupe d'amis qui jouent au tennis, ben ça va être beaucoup plus facile pour l'enfant numéro 2 de commencer à jouer au tennis, de comprendre les stratégies, comprendre comment tenir la raquette, comment brosser la balle, etc. Fait que si on peut exposer les enfants à plus de sports, ben ça va leur donner bien plus de chances d'être actifs pendant longtemps, puis d'être actifs à l'âge adulte, parce qu'ils vont être beaucoup plus polyvalents, puis ils vont pouvoir commencer un nouveau sport sans être trop mauvais, parce qu'ils vont être relativement compétents dans ce sport-là. Puis deux choses qui aident vraiment les gens à continuer l'activité physique pendant longtemps, c'est de se sentir compétent puis de se sentir autonome. Donc, si on peut aider nos enfants, mettons, à se sentir compétents puis autonomes dans plusieurs sports, ben là, c'est comme on les aide là, pour la vie, finalement. Là, on les aide premièrement à trouver un sport qu'ils apprécient plus puis à savoir quel sport ils aiment moins. Mais en plus, on les aide comme à garder l'habitude de l'activité physique parce qu'ils ont du plaisir, ils se sentent bons puis ils se sentent autonomes là-dedans sur le long terme.
Mm-hmm.
Fait que... Tout ça pour dire que dans le fond, si t'aimes pas ça la course, c'est pas si grave. Faut juste trouver une activité que t'aimes puis la pratiquer. Mettons que présentement t'aimes pas ça la course, que t'aimerais ça apprécier la course, il y a quand même des techniques que tu peux essayer d'utiliser pour augmenter tes chances de commencer à aimer ça. Dans le fond, là, l'idéal c'est d'être motivé au début puis de réussir à créer une habitude. Pour créer une habitude, là, ça prend trois choses là. Exemple, je vais donner une habitude qui est ancrée chez beaucoup de monde, c'est se brosser les dents avant de partir de la maison le matin. Okay? Le signal qui déclenche cette habitude-là, c'est je m'en vais au travail, fait que je me brosse les dents. L'habitude, c'est de se brosser les dents, puis il y a toujours une récompense. C'est la troisième partie de l'habitude, c'est la récompense. Puis c'est ça qui fait que tu vas avoir le goût de te rebrosser les dents dans le futur, c'est qu'il y a une récompense à la fin. Dans le cas de se brosser les dents, ben tu sais, il y a un petit peu de menthol là, genre qui irrite un peu tes gencives, qui fait que tu as l'impression d'avoir la bouche fraîche après t'être brossé les dents. Puis c'est ça qui constitue la récompense, puis c'est ça qui fait que tu as le goût de te rebrosser les dents. Pis c'est vraiment drôle parce que quand ça a été inventé la pâte à dents, dans le fond, il y avait pas ce petit menthol là qui irrite un peu tes gencives puis tes dents.
Fait que c'était dégueulasse se laver les dents.
Ça devait vraiment pas goûter bon, ok? Fait que, dans le fond, il y avait bien moins de monde qui se brossait les dents. C'était genre 10% des gens qui se brossaient les dents. Puis là, ils ont dit, oh, on va mettre des saveurs plus intéressantes, puis on va mettre un petit peu de menthol pour que les gens aient la bouche fraîche. Puis là, comme le nombre de gens qui se brossaient les dents de façon régulière a augmenté vraiment vite. Fait que, dans le fond, quand on veut prendre une habitude, ça va être vraiment important de trouver un élément déclencheur, quelque chose qui déclenche l'habitude, puis d'avoir une récompense à la fin. L'idéal, c'est de trouver d'avoir une récompense qui est intrinsèque, donc une récompense qui est intérieure à soi. Fait que mettons, si je vais courir puis qu'après ça je me sens bien, j'en prends conscience, ça c'est l'idéal. Mais des fois on peut commencer quand on veut mettre en place une habitude par des récompenses qu'on appelle extrinsèques. Fait que des récompenses qui sont extérieures à soi. Fait que mettons, manger du chocolat. Okay?
C'est ça, j'allais dire, ça compte-tu si c'est une récompense qui est potentielle?
Oui, ça compte. Puis ça peut être bon, mais l'idéal, ça va être de finir par enlever cette récompense-là, puis que la récompense devienne comme le sport lui-même. Tu sais, les gens qui sont motivés à faire le sport, puis que pour eux, aller courir, c'est ça la récompense, ça c'est l'idéal, parce que là, ton niveau de motivation, ben, il va être plus élevé. C'est sûr que tu vas être plus régulier dans ta course à pied si tu finis par aimer ça que si tu n'aimes jamais ça. Mais des fois, pour installer l'habitude, on pourrait dire que, mettons, le déclencheur, c'est, mettons, il est 6 heures, puis on est mercredi, puis il est 18 heures. Fait que ça, c'est l'élément déclencheur. L'habitude qu'on cherche, le comportement qu'on cherche à renforcer, c'est d'aller courir. Puis on peut essayer de se trouver une récompense. Exemple, ça peut être ça, du chocolat, ça peut être, je sais pas, un McFlurry ou n'importe quoi. Là. Dans le fond, il peut avoir une récompense qui est externe. Puis là, l'idéal, ça va être d'essayer de faire cette boucle-là, puis de faire cette boucle-là pendant quelques semaines.
De 21 ça. Jours, d'habitude. L'habitude, ça, c'est un autre, peut-être, mythe et réalité.
Oui, c'est un peu un mythe, parce que dans le fond, tu sais, il y a des choses que tu vas faire pendant 21 jours, puis tu n'auras pas du tout pris l'habitude, tu vas être capable d'arrêter ça du jour au lendemain. Puis il y a des choses que tu vas faire pendant 21, pendant, mettons, 7 jours, puis l'habitude va être déjà prise. Je vais te donner un exemple, là, mettons, si tu reçois des notifications sur ton téléphone, c'est vraiment addictif, là, mettons, de regarder ton téléphone, ouais. D'avoir de nouvelles notifications, puis mettons, il y a des gens qui, d'avoir des nouvelles du monde extérieur, ça constitue la récompense. Fait que l'habitude, mettons, pour quelqu'un qui a jamais eu de cellulaire, puis qui a un cellulaire, de regarder, mettons, ses notifications régulièrement, ça se prend vraiment vite, t'as pas besoin de 21 jours pour prendre cette habitude-là. Des fois, pour l'habitude de l'activité physique, c'est une habitude pour, dans laquelle, mettons, le signal déclencheur puis la récompense, c'est plus flou puis c'est moins fort, ben ça peut prendre 6 mois prendre l'habitude puis avant que l'habitude soit vraiment intégrée. Fait que, mettons, le 21 jours, honnêtement, je sais pas de où ça vient exactement, mais tu sais, il y a des habitudes qui vont prendre beaucoup moins puis des habitudes qui vont prendre beaucoup plus qu'il y a 21 jours, puis c'est comme ça.
OK.
Ouais. Fait que... C'est ça. Si je récapitule, là, dans le fond, l'idéal pour réussir à prendre l'habitude de faire de la course puis commencer à apprécier ça, ça va être de se trouver un événement déclencheur, un signal fort. Fait que si je dis « je vais aller courir quand ça me tente », ben ça, c'est pas un signal qui est très fort puis c'est assez flou comme signal. Fait que ça m'aidera pas beaucoup à être constant. Si, mettons, je mets une heure puis une journée de la semaine spécifique, je le mets dans mon horaire puis qu'il y a une notification dans mon agenda qui me dit « là, c'est le temps d'aller courir », mais là, c'est un signal qui est plus fort puis qui est plus clair. Après ça, le comportement lui-même, ça va être d'aller courir. Puis la récompense, au début, elle peut être extrinsèque, comme de prendre un morceau de chocolat ou un McFlurry, mais idéalement, on essaierait de la rendre la plus intrinsèque possible. Le plus vite possible. Comment on peut faire ça? Ben, si tu as un petit calepin, mettons, ou si tu as un calepin là, tu peux noter comment tu te sens. Est-ce que, mettons, tu te sens libéré, tu as l'impression d'être de meilleure humeur, tu marques les avantages pour toi après chaque entraînement. Une autre façon aussi, c'est de participer à des réseaux sociaux d'activité physique. Là. Fait que celui qui me vient en tête, c'est Strava, mais il y en a plusieurs autres, Endomondo, Runkeeper, etc. C'est des applications sur lesquelles tu vas pouvoir poster tes entraînements. Puis recevoir comme les gens ils vont t'encourager. Là, l'application elle sert comme à ça. Tu poses ton entraînement, puis les gens ils vont te mettre un petit pouce en l'air, puis ils vont te féliciter pour ton entraînement. Ben ça peut être. C'est un peu extrinsèque aussi, là, dans le sens que c'est une récompense externe, mais ça peut t'aider à prendre l'habitude un petit peu plus vite, parce que dans le fond, tu reçois comme une récompense. Quand les gens ils t'encouragent, ben tu sais, les humains, nous, on aime ça se faire encourager. Fait que ça peut être une façon de renforcer l'habitude de faire de l'activité physique, puis ça peut t'aider à aimer ça. Une autre chose que tu peux faire, c'est aussi mieux te connaître. Je sais pas toi, c'est quoi que... Est-ce que, mettons, il y a des gens qui vont être motivés par les chiffres. Fait que là, ils vont suivre tous leurs chiffres d'entraînement. Il y a des gens qui vont être motivés par les beaux paysages. Fait que là, ils vont aller courir dans des endroits où est-ce que c'est beau. Il y a des gens qui aiment ça être en forêt. Fait que là, les autres vont choisir des parcours en forêt. Il y a des gens qui sont plus sociaux. Fait que là, les autres vont s'inscrire dans des clubs de course. Puis ça va être comme une activité sociale en même temps. Fait que ça, c'est tous des trucs qu'on peut utiliser aussi pour faire de la course plus souvent.
OK. Puis là, c'est ça, moi, je suis quand même un bon exemple pour ça, parce que j'aime pas courir, faut le savoir. Là.
Ouais.
Je préfère la musculation, fait que je vois que c'est tous des trucs que je pourrais essayer de faire. Moi, je pense que je préférerais courir en forêt. C'est ça.
Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, là, si tu es capable de combiner la course avec quelque chose que tu veux déjà faire, ben ça peut être aidant. Fait que mettons que faut que tu te rendes au travail, puis que tu le jumelles avec la course, ça peut aider. Si tu aimes ça passer du temps dans la nature, comme tu le mentionnes, ben puis que tu es capable de combiner ça avec la course, ben ça peut aider. Puis comme ça, quand on combine deux choses ensemble, ben, on augmente nos chances d'arriver à en faire de façon régulière.
Mm-hmm. Puis là, je m'étais noté aussi d'autres trucs qui pourrait, pour moi, aider peut-être pour d'autres mondes aussi. Ouais. Puis là, je sais pas, je pense que ça doit être extrinsèque, celui-là, d'avoir des chaussures et des vêtements confortables. Et sinon, pour moi, ce serait d'avoir, oui, confortable, mais des vêtements beaux. Que si je suis bien habillée, puis je suis fière de comment je suis habillée, on dirait que je vais plus être portée à vouloir bouger qu'à aller courir. Ça, c'est extrinsèque.
On pourrait dire que c'est extrinsèque. Ben, mettons, l'aspect confortable, c'est presque intrinsèque, mais parce que dans le fond, c'est sûr que c'est plus agréable de courir quand t'as des vêtements qui sont adaptés, puis que ça te frotte pas, puis genre, si tu reviens chez vous, puis t'as des irritations, puis des ampoules sur les pieds, c'est moins agréable de courir, fait que tu diminues de façon importante tes chances de courir de façon régulière. Les vêtements qui sont beaux, ben, faut pas négliger ça, là, tu sais, il y a beaucoup de gens pour qui c'est un facteur, mettons, quand ils sentent une baisse de motivation, ils vont aller s'acheter un kit, puis là, ils se disent, ah, ben là, faut que je mette mon nouveau kit que je me suis acheté parce que je l'ai payé X dollars, fait que là, je veux le rentabiliser, puis je veux être fier de comment, de quoi j'ai l'air quand je cours, puis ça, si c'est important pour toi, mettons, ben, ça va être un facteur de réussite, fait que ça, faut être honnête avec nous-mêmes, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, non, moi, c'est pas important, mais en vérité, c'est important pour eux, puis après ça, ben, ils sont pas motivés. Fait que là, dans le fond, si c'est important pour toi, ben c'est correct, là, dans le fond. Puis ça peut être une bonne idée d'avoir des vêtements adaptés puis d'acheter des vêtements qui sont beaux pour être fier de ton look quand tu cours. Puis c'est bien correct, là, tu sais. C'est pas mieux ou moins bon que les gens qui s'en foutent complètement, là, tu sais.
Ouais. Ça va sûrement rien changer à ma performance. Là.
Ça ne change pas grand-chose, mettons. Faut pas s'attendre à ce que ce soit plus facile. Là,
je ne vais pas courir plus vite. Ça, je ne vais pas être moins essoufflée. Mais au moins, je vais être belle dans mon linge. Fait que...
ben, c'est ça. Faut, comme... Moi, mettons, j'ai fait cette erreur-là au début. Là, dans le sens que je me dis, ah, si je vais m'acheter de nouveaux souliers, ça va m'aider à courir plus vite. Puis je vais faire un nouveau record, etc. T'sais, dans le fond, les souliers ont une influence vraiment minime là, sur ton niveau de performance. Surtout pour le monde comme toi puis moi, là, t'sais, qui on gagne pas notre vie avec ça. Fait que t'sais, faut pas s'attendre à des miracles parce que c'est des nouveaux souliers. Mais t'sais, si t'es trop beau, puis tu trouves qu'ils ont l'air de courir vite, puis t'as l'air d'avoir une belle foulée avec ces chaussures-là, ben t'sais. Parfait, allons-y avec ça, puis genre ça va être une bonne acquisition.
Ouais. Mais tu sais, mettons, peut-être pas de dépenser vraiment beaucoup d'argent au début avec des chaussures puis des vêtements pour courir si tu commences à courir puis que tu le sais pas si tu vas vraiment aimer ça, parce que c'est un peu poche de tout dépenser puis finalement après un mois faire « Ah, ça me tente plus, j'aime pas ça! »
Ben c'est sûr, ça dépend de ton budget, là, mais tu sais, c'est sûr que c'est plate de, mettons, investir 1000$ sur un kit complet avec une montre puis toutes les patentes à gosse. Puis après ça, aller courir trois fois puis se rendre compte que t'aimes pas ça.
Ça, c'est mon genre.
Mais, tu sais, il y a moyen de commencer la course à pied avec en investissant très peu d'argent. Tu sais, si t'as une paire de chaussures de sport, des shorts puis un t-shirt l'été, la plupart des gens ont déjà un téléphone, t'installes une application. Si tu veux, là, pour mesurer la distance parcourue, tu peux commencer la course à pied avec en investissant presque pas d'argent. Par contre, c'est sûr que ça va être un élément pas important, mais qui peut être important pour certaines personnes, puis pas du tout important pour d'autres personnes, d'être confortable pendant qu'ils courent, puis de se sentir bien, puis de se sentir adéquat, d'avoir l'air d'un coureur. Là, dans le fond, c'est correct aussi ce sentiment-là de vouloir appartenir à la communauté des coureurs. Ouais. D'ailleurs, si tu croises quelqu'un dans la rue, ça peut être un autre facteur de renforcement, mais la plupart des gens qui courent, quand ils croisent un autre coureur dans la rue, ils font genre un signe de la main ou genre ils se regardent dans les yeux, ils font genre un signe de la tête. Comment?
Je savais pas.
Ben, ça... je te le dis, là.
Fait que c'est comme les gars en moto, là, exact. Ou les filles en moto, en fait.
Ouais,
comme il y a quelque chose qui, quand t'as la même, mais je sais pas, tu sais, tu t'appartiens, tu te reconnais en autre personne, faut que tu te dises salut.
Oui. Comme... Ben là, je te l'annonce, là. Quand t'en croises d'autres, fais leur salut, puis eux autres vont être contents de te saluer aussi la plupart du temps. Puis ça, cette appartenance-là à une communauté, même si dans le fond on connaît, mettons tu croises 8 personnes qui causent, tu leur fais salut à chaque fois, t'es connais pas, mais c'est pas grave de cette appartenance-là à cette communauté-là qui est inventée là, dans la tête, dans l'imaginaire collectif des coureurs, ben ça en fait partie, puis d'avoir des vêtements appropriés, ça en fait partie aussi. Mm-hmm. C'est comme tu dis, la moto c'est un super bon exemple, mais tu sais, le monde qui roule en Harley Davidson, ben ils ont un côte de cuir, genre.
Ah, c'est ça, ouais.
Et puis ceux qui roulent sur des motos sport, ils ont, je sais pas, un manteau avec des pads sur les coudes, là, tu sais. Puis un casque là, profilé. Là, le kit va avec l'activité. Puis ça fait partie comme. Ça t'aide à faire partie de la communauté.
Mm-hmm. OK. Ben, c'est parfait. Fait que je vais faire ça la prochaine fois. Je vais aller courir. Je vais saluer tout le monde.
Ben oui, mets ton kit de course et salue les gens.
Sinon, d'autres trucs pour aimer courir, ben. C'est, je sais pas si on l'a mentionné peut-être plus tôt, mais y aller progressivement. Puis ça peut rentrer aussi dans s'autoriser à marcher, là. Fait que, tu sais, de pas se dire je vais aller sprinter, puis de se mettre trop un objectif élevé. Là.
Ouais. Ben, ça, c'est vraiment deux bons conseils. Pourquoi? Tu sais, tantôt, on disait, là, que pour prendre une habitude, ça prend un signal qui déclenche le comportement, puis qu'il y a une récompense à la fin. Ben, si, mettons, tu as un entraînement qui est trop dur, puis là, tu reviens, tu es vraiment fatigué, tu es courbaturé le lendemain, puis genre le soir même, tu es tellement fatigué que tu réussis pas à faire ton souper, puis finalement, tu manges du popcorn avec des chips, mettons.
Mm-hmm.
Ben, tu sais, tu n'as pas le renforcement positif de te sentir bien après, puis d'être fier. Tu te dis, ah, j'en ai ben trop fait, puis genre, là, je suis vraiment pété. C'est pas un renforcement très positif. Fait que l'idéal, c'est de terminer tes entraînements avec, oui, un sentiment de bien-être parce que tu as fait un effort, mais qui n'est pas tellement grand que, dans le fond, ça devient du renforcement négatif, là, tu sais.
Ouais.
Que ça devient, ouais, c'est ça, du négatif qui va t'empêcher de prendre l'habitude. Puis, ben, s'autoriser, ton conseil de s'autoriser à marcher, ben, c'est super bon parce que, dans le fond, pour la plupart des gens qui sont sédentaires, qui commencent à courir, pour avoir un niveau d'entraînement adapté à leurs premiers entraînements, ben, il va falloir intégrer de la marche.
Ouais.
Fait que, tu sais, intégrer de la marche, c'est pas une honte. Dans le fond, quand tu marches sur le bord de la rue, là, les gens ne savent pas que tu courais la minute d'avant. Puis, dans le fond, le monde s'en sac complètement là, de ce que tu fais sur le bord de la rue. Des fois, quand on court, là, on se dit, hey, moi, je veux pas avoir l'air de marcher. Fait que là, tu sais, je continue à jogger aux lumières.
Mm-hmm. En réalité, quand, en fait, mettons, t'es dans ton char où tu marches, tu regardes pas le monde qui court.
Non, c'est ça.
Tu les analyses pas en disant, Colin, qu'est-ce qu'il fait là?
Tu les vois, mais tu les regardes pas, là. Tu sais, ils font partie de ton champ de vision, mais tu sais, c'est ça. Puis il y en a beaucoup, là, du monde qui court, puis qui marche, là. Puis genre, à chaque fois, je me dis pas, hey, ça, c'est un coureur qui a l'air d'en train de marcher. Il est vraiment nul parce que il a pas réussi à courir son 5 km. Là, t'sais. Il n'y a personne qui, en char, il se dit ça. Là. Fait que ça, faut enlever ça de notre tête que dans le fond, marcher, c'est une honte. Là. Marcher, c'est bien correct. Marcher, c'est même bon. Là, t'sais. Ça fait partie d'avoir un équilibre dans notre vie. Ça fait partie de commencer doucement. Puis il y a des gens pour qui la marche va toujours être intégrée. Là, t'sais. Nathalie Bisson là, du Pays du Bonheur. Elle intègre, elle dit, moi, quand j'ai le goût de courir, mettons, je vais m'entraîner, j'ai le goût de courir, je cours. Si j'ai le goût de marcher parce que je suis essoufflé, je marche. Si je suis même pas essoufflé, j'ai juste le goût de marcher parce que je suis fatigué de ma journée ou quelque chose comme ça, ben, elle marche, puis c'est bien correct, là, tu sais. Courir à tout prix pour finir son 5 km à la course, c'est pas. Y a pas de médaille, y a pas de prix, c'est pas mieux, c'est pas moins bon, c'est juste différent. Puis marcher, c'est une activité physique qui est très bonne pour la santé, là. Aussi bonne pour la santé que la course, tu sais.
Ouais. Puis d'ailleurs, ça me fait penser à. Tu dis Nathalie de Pays du Bonheur, elle regarde pas ses. Elle fait. Tu sais, elle regarde pas son pace, justement. Ouais. Elle regarde pas sa. Tu sais, si elle court vite ou c'est.
Ouais.
Fait qu'elle va juste courir pour courir. Fait que ça peut être un objectif aussi ou un incitatif quand tu commences à courir de pas te mettre la pression puis regarder tes statistiques.
Là. Ouais. Ça, je suis obligé de dire que ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont être extrêmement motivés puis qui vont aimer regarder leur entraînement puis genre le décortiquer puis regarder leur fréquence cardiaque puis tout ça. Il y a des gens pour qui ça va être extrêmement motivant. Il y a des gens que dès le départ, ça va pas les intéresser puis ils vont juste aller courir en nature puis alterner marche-course. Ils sauront même pas combien de temps ils ont fait. Ils vont juste traîner leur cellulaire pour appeler en cas de besoin. Les deux se peuvent. Ce que j'ai vu plus souvent, par contre, c'est des gens qui commencent, qui sont très motivés par, mettons, leur performance, leur vitesse, etc., qui vont tout suivre ça à la lettre. Ça, on pourrait dire que c'est comme une récompense qui est extrinsèque, mettons, quand je regarde mon entraînement à la fin, puis je vois ce que j'ai fait, etc., je peux être fier. Puis souvent, ils vont finir par aimer la course assez, qu'ils n'auront plus besoin de ça pour aller courir de façon régulière, puis ils vont juste aller courir, pas de monde, puis ils mettront pas ça sur des réseaux sociaux, puis ils vont juste courir pour eux-mêmes.
Ouais.
Puis là, on va... Ça, c'est un exemple de personne qui aurait réussi à passer d'une motivation qui est extrinsèque à une motivation qui est intrinsèque.
On dirait que moi, ça serait le contraire. Je commencerais à pas regarder, parce que de toute façon, je suis pas super bonne, fait que c'est démotivant de regarder mon pace. Mais si je deviens bonne, je veux le regarder pour voir comment que je suis bonne.
Ben, c'est ça, cool. C'est... Dans le fond, c'est ce que ça montre, là, c'est que... Tout se peut là, dans la vie, là, chaque personne est unique. Puis l'idéal, c'est que la personne qui veut commencer à aimer courir, qui veut apprendre à aimer courir, ben elle se demande c'est quoi les facteurs qu'elle peut apprécier à l'intérieur de la course. Là, est-ce que c'est justement les statistiques ou est-ce que c'est les paysages, etc. Fait que, tu sais, chaque personne peut trouver quelque chose qu'il aime à l'intérieur de la course, puis après ça, focusser son attention sur ça pour que ça constitue une récompense qui va lui permettre de prendre l'habitude.
Mm-hmm. Parfait. Sinon, les autres, ben c'est ça, par rapport à la marche, là, de s'autoriser à marcher, mais tu peux aussi suivre un plan d'entraînement, puis souvent qui vont intégrer la marche là, au début.
Ouais.
Puis, tu sais, mettons un plan d'entraînement qui, à chaque semaine, évolue, qui a de plus en plus de courses et moins en moins de marches. Il y en a, tu sais, ça existe, là, quelque chose que tu peux suivre. D'ailleurs, dans le défi entreprise, on a un plan comme ça. Mais c'est ça, ça peut être motivant de suivre, tu sais, ou de, tu sais, peut-être pas nécessairement d'avoir un coach, mais quelqu'un qui est bon, qui peut un peu t'aider là-dedans.
Mm-hmm.
Pas de partir tout seul à pas savoir qu'est-ce que tu fais.
Suivre un plan d'entraînement, là, ça va faciliter beaucoup de choses. Il y a des gens pour qui ça convient moyen, les plans d'entraînement, surtout s'ils sont très rigides. Des gens qui sont plus comme, tu sais, j'y vais au feeling, etc. Ça existe, puis ça, dans ce temps-là, le plan d'entraînement va être démotivant. Mais pour beaucoup de gens qui commencent, ben ça va être rassurant.
Mm-hmm.
Tantôt, je disais que pour apprécier une activité, il faut se sentir compétent, puis il faut se sentir autonome. Mais de pouvoir exécuter un plan d'entraînement, ben ça aide à se sentir autonome. J'ai mon plan, je le suis, puis je sais où je m'en vais. Ça renforce mon autonomie. Et si j'ai réussi à exécuter le plan, ben je me sens compétent en plus. Fait que ça peut être vraiment motivant. En plus, ben, t'sais, d'un point de vue prévention des blessures, ben là, c'est sûr qu'il y a des bienfaits qui sont importants. Parce que si je suis un plan d'entraînement, ben j'ai moins de chances d'en faire trop vite. Effectivement, les programmes d'entraînement du défi entreprise ben, sont faits justement pour ça, pour pas en faire trop vite. Fait que c'est pour ça qu'on alterne entre marche et course souvent en commençant. Mais en gros, suivre un plan d'entraînement, ça a beaucoup de bienfaits. Puis pour les gens qui aiment ça, ben, ça va être vraiment bénéfique.
Mm-hmm.
Ouais.
Puis quelque chose avec le plan d'entraînement, c'est de la constance. Là. Ça l'aide à. T'sais, parce que si tu vas courir une semaine, 4 jours dans ta semaine. Après ça, tu es 2-3 semaines sans y aller, puis après ça, tu recommences. C'est pas vraiment... C'est pas de la constance. Fait que là, c'est plus dur à développer là, ta course. Puis...
Ben, tu sais, tantôt, quand je reviens à mon histoire des habitudes, quand, mettons, je vois que j'ai un entraînement, mettons, à faire le mardi, ben, c'est un signal, mettons, qui devrait un jour finir par déclencher l'habitude d'aller courir. Fait que... Dans le fond, ça peut m'aider, un plan d'entraînement, ça peut m'aider à prendre l'habitude d'aller courir de façon régulière. Puis ça peut m'aider à aimer la course à pied aussi parce que je me pose moins de questions. Je cours-tu trop longtemps, je cours-tu moins longtemps? Fait que ça peut rendre la course à pied plus agréable. Je fais juste, mettons, rentrer mon plan d'entraînement sur ma montre ou je suis mon chronomètre. Puis là, j'ai plus besoin de me poser de questions. Fait que ça peut être plus relaxant que d'aller courir. Puis toujours se demander, je cours-tu à bonne vitesse? Est-ce que je devrais courir ou est-ce que je devrais marcher, etc.? Ben, ça peut rendre ça plus relaxant.
Mm-hmm. Ouais. Puis, tu sais, avec la constance, ça va faire que plus tu t'améliores, plus tu... En tout cas, c'est pour moi, là, je pense que plus je m'améliore, plus je vais aimer courir. Fait que j'ai pas le choix d'être constante. Puis, il y a une phrase là, que tu avais mise dans un de tes blogs qui est du philosophe Sénèque, que j'ai bien aimé, qui c'est « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
Ouais. »
Puis c'est vraiment ça, c'est... Tu sais, mettons, moi, j'aime pas courir parce que je trouve ça difficile, mais c'est parce que si c'est difficile, c'est parce que je cours pas.
Ouais.
Fait que là, c'est comme c'est une boucle, mais tu sais, c'est juste... Faut que ce soit difficile au début pour qu'après ce soit facile.
Mm.
Puis c'est la constance qui est vraiment importante là-dedans. Là.
Ouais.
Et que...
Ben, moi, mettons, ça c'est vraiment personnel. Là, fait que je vais. C'est pas un exemple qui va s'appliquer à tout le monde, mais sais, dans la vie, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui est si grave que ce qu'on pense, mettons. Je te donne un exemple. Moi, mettons, la course à pied, c'est pas un bon exemple pour moi parce que, comme naturellement, j'ai comme un physique qui est adapté à ça, puis je suis relativement performant. Fait que c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. Quelque chose qui est difficile pour moi, par exemple, c'est la construction. Les réparations, okay. Ces affaires-là dans une maison. Je suis pas très manuel, puis mettons, je pense pas à son haut, exemple, les poteaux en arrière d'un mur, là, les montants, etc. Je pense pas à ces affaires-là, puis je sais pas comment c'est construit, fait que j'ai de la difficulté avec ça. Mais tu sais, dans le fond, là, quand mettons, j'arrive pour faire de la construction, je me dis, ah, je suis pas bon pour faire ça, je vais appeler quelqu'un. Mais tu sais, dans le fond, pour en revenir à Sénèque, là, ça m'a l'air vraiment difficile parce que j'ose pas le faire. C'est mais ça. Quand, mettons, je me dis, ok, mais là, je le fais, fait que là, je regarde des vidéos sur YouTube, puis là, évidemment, ça fait pas une job parfaite de 10 sur 10 comme dans les magazines, sauf que, mettons, ça fait le travail. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je pense que de ramener ça à c'est quoi le pire qui peut arriver ou est-ce que c'est vraiment grave si telle affaire se produit, si je réussis pas à courir mon 5 km. Tu sais, c'est quoi l'impact? En vérité, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment si important que ça dans notre vie. Fait que moi, j'ai tendance à penser que c'est préférable d'oser, effectivement, faire les choses, d'essayer les choses qui sont difficiles. Puis le pire qui peut arriver, c'est qu'on ne réussisse pas. Puis souvent, il y a bien moins de conséquences à ne pas réussir que ce qu'on pensait, mettons.
Ouais, c'est vrai. Après ça, pour... ben là, peut-être on va penser à un autre... un autre sujet, là, mais tu l'as parlé un peu tantôt de quand tu reviens de courir, tu te sens bien, puis c'est beaucoup, c'est comme un, c'est ça, c'est le pourquoi tu voudrais aller courir, c'est pour te sentir bien après, puis c'est comme l'endorphine, en fait, là, c'est l'hormone de l'endorphine surtout qui va te faire sentir bien, si je me trompe pas, c'est ça que tu veux avoir en allant courir.
Ben, tu sais, une fois que quand tu vas courir, surtout si c'est un entraînement qui est relativement intense, quand tu vas revenir, tu vas avoir des neurotransmetteurs dans ton corps qui vont avoir été sécrétés et qui vont faire que tu te sens bien. Il n'y a pas juste les neurotransmetteurs, par contre, tu sais, dans le fond, ton corps va être chaud parce que tu as couru. Fait que ça, généralement, ça aide aussi à se sentir bien. Tu vas être fier de ton entraînement. Ça, d'en prendre conscience, là, puis de l'écrire ou genre de mettre un X dans un calendrier ou de mettre ton entraînement sur Strava, tout ça, ça va renforcer le fait d'être fier de soi. Évidemment, les neurotransmetteurs, d'en profiter quand ils sont là. Parce que, tu sais, au début, ils sont là souvent, mais plus tu cours, moins tu vas avoir une grosse dose, puis tu vas comme un peu t'habituer à cette dose-là. Fait que ça va être tu vas de moins en moins ressentir l'euphorie là, que tu as peut-être dans les premiers entraînements.
Ouais.
Mais, effectivement, les neurotransmetteurs, oui, ça aide à se sentir bien, les endorphines ça aide à se sentir bien, mais il y a d'autres choses que ça, puis dans le fond c'est quand même assez complexe pourquoi on se sent bien après une course, mais il y a plusieurs facteurs incluant les neurotransmetteurs qui font que ça améliore nos chances de continuer à faire de la course à long terme, fait que ça, tout ça ensemble ça constitue une récompense, puis plus on prend conscience de cette récompense là, plus on a chance d'avoir le goût de courir puis de retourner courir dans le futur là.
Il y a une expression qui est c'est l'ivresse du coureur. Là. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui connaît ça, mais c'est ça, c'est comme addictif un peu de.
Ouais.
Comme le feeling là, d'aller courir après peut-être au début c'est plus dur là, parce que t'as plus de misère, mais comme quand t'es rendu plus habitué, c'est comme rendu un peu c'est ça, addictif là, de ce feeling là. Ça se peut-tu? Ou pas, pas pour tout le monde?
Oui, ben ça, c'est addictif. Moins que, mettons, l'héroïne.
je comprends, puis c'est clairement, il y a moins de personnes qui ont des problèmes d'addiction à la course. Que,
ben, tu sais, j'ai jamais essayé l'héroïne, mais je pense que c'est vraiment très addictif. Oui, là, ça existe, l'addiction à l'activité physique. C'est pas un danger qui est si grand que ça pour la plupart des gens. Mais oui, après, mais c'est surtout vrai au début, tu sais, cette ivresse du coureur-là, c'est surtout vrai quand tu commences, parce que là, comme c'est nouveau, t'as ce cocktail-là d'hormones qui sont sécrétées, puis t'as des neurotransmetteurs qui sont sécrétés dans ton cerveau, mais comme c'est rare les gens qui vont sentir ça comme fois après fois pendant une longue durée. Fait que souvent, c'est comme un truc qui arrive plus au début, puis à un moment donné, ça s'estompe, puis ça va arriver juste, mettons, quand t'as un entraînement qui est particulièrement difficile puis qui va particulièrement bien. Là, tu vas te sentir full bien après, mais tu peux... pas compter sur ça, de ressentir cette ivresse-là grâce au neurotransmetteur pendant très très longtemps. Par contre, tu peux te sentir vraiment fier après chaque entraînement puis te sentir vraiment bien, mais ça va être moins relié au neurotransmetteur.
OK. Mais tu sais, mettons moi, là, ça m'arrive, là, je comprends pas souvent, mais ça m'arrive peut-être une fois par 4-5 mois d'avoir une bulle, me dire « je vais aller courir
mm-hmm. ».
Surtout l'été, l'hiver, je fais pas vraiment ça.
Ouais.
Soit parce que j'ai un ami qui me dit « ah, on va courir » ou juste parce que, je sais pas, j'ai décidé d'aller courir. Mais j'ai pas ça, le feeling après de me sentir bien de faire comme... Parce que, tu sais, mettons, si je vais faire la musculation, je vais au gym, après ça, je me sens, mes muscles ont travaillé, je me sens super bien. Tandis que quand je vais courir, puis pourtant, j'ai pas l'impression de donner trop, là, je reviens de courir, je me sens épuisée, je suis morte, j'ai des taches rouges en face, genre, je me sens pas bien, là. J'ai mal au cœur, je me couche sur le divan, puis je suis comme « Ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? » Puis là, c'est ça qui me donne pas le goût de retourner courir le lendemain ou la semaine d'après, parce que je me sens pas... Puis tu sais, puis je suis ultra essoufflée, là, pendant que je cours, fait que... je sais pas, est-ce que c'est si c'est parce que je mange pas, c'est-tu mon alimentation, c'est-tu comment que je cours, c'est quoi mon problème?
Docteur, c'est quoi mon problème?
Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme ça ou je suis la seule là, qui revient de courir
puis
qui
sent... T'es certainement pas la seule, là, ça, je suis sûre de ça. Ben, tu sais, c'est très difficile là, de dire exactement c'est quoi le problème. Mais mettons, dans les choses que tu pourrais essayer, la première chose, c'est faire un entraînement, mettons, la moitié moins long que ce que tu fais d'habitude. Ça, c'est une première chose que tu pourrais essayer. Deuxième chose que tu pourrais essayer, c'est courir moins vite que ce que tu fais d'habitude. L'autre chose, c'est que tu pourrais essayer, mettons, d'alterner marche-course sur la moitié du entraînement que tu fais d'habitude. Ben, je dis d'habitude, mais mettons, je vais dire les dernières fois, là, mettons. Ouais. Tout ça, parce que dans ton cas, ça m'a l'air quand même relié à l'intensité de l'effort, là. Puis là, tu vas me dire, ouais, c'est pas un effort si grand que ça, mais t'as peut-être raison que c'est pas un effort comme comparé à courir 10 km qui est si grand que ça, puis il y a plein de monde qui réussit à courir 10 km puis à se sentir bien après. Mais dans le fond, pour toi, aujourd'hui, c'est vrai que comparé à la musculation que tu fais, c'est probablement un petit effort, mais pour ton corps, c'est quand même passablement différent, mettons, courir, exemple, 3 km sans arrêter. Versus faire un entraînement de jambes. Les deux, là, en termes absolus, sont probablement aussi difficiles, mais toi, vu que tu fais souvent des entraînements de jambes, mettons, t'es habitué, puis tu te sens bien après parce que t'as une certaine endurance à ça, t'as une certaine compétence là-dedans. Ben, faut que tu laisses le temps à ton corps d'arriver à ce niveau de compétence-là, puis ce niveau de préparation-là pour courir, mettons, 3 km. Fait que ma suggestion, ce serait de diminuer la dose, en tout cas au début. Soit diminuer le volume total, soit diminuer l'intensité de l'entraînement. Mettons de moitié, puis de voir comment ça va. Puis là, si là, tu trouves que ça, tu te sens bien après, mais là, ça veut dire que la fois d'après, tu pourrais augmenter soit le volume, donc la durée, mettons, de l'effort, ou l'intensité, fait courir un peu plus vite, ou intégrer moins de marche dans l'entraînement.
OK, c'est noté. Je vais réécouter le podcast après, puis je vais faire ça. mais c'est ça, puis par rapport à ça, il y a souvent la question, comment être moins essoufflé quand je cours, ou comment pas être essoufflé? Je sais pas si c'est possible de pas être essoufflé quand tu cours, mais il y a cette question-là, des fois, des gens pour aider à ça.
Ouais. La meilleure façon d'être moins essoufflé, c'est de courir moins vite. Il n'y a pas de technique spéciale là, de respirer par le nez ou prendre des respirations longues ou respirer par le bas du ventre. T'sais, ton corps, là, quand il y a trop de CO2 dans ton sang, là, ben, il faut qu'il l'expulse. Okay? Puis il va essayer de prendre la meilleure façon. Il va optimiser ce processus-là du mieux qu'il peut. Puis généralement, ça va être de respirer plus vite puis de prendre des plus grandes respirations. Fait que T'sais, dans le fond, l'essoufflement il est vraiment relié à la quantité de CO2 qui est présente dans ton sang, puis il va falloir l'expulser. Puis pour être moins essoufflé, ben soit il n'y a pas d'autre choix, c'est de ralentir ou d'intégrer de la marche ou de moins courir en côte. Puis tout ça, ça va être d'être moins essoufflé. Il n'y a pas de truc que tu peux faire là, du jour au lendemain pour être moins essoufflé à une vitesse donnée, autre que d'améliorer ta condition physique. Fait que, mettons, c'est sûr que tu commences à courir, mettons tu vas courir à 10 km/h, tu te sens très essoufflé. Ben, si tu continues à t'entraîner pendant, mettons, un an, ben, quand tu vas t'entraîner après un an à 10 km/h, tu vas être moins essoufflé parce que ta condition physique s'est améliorée. Fait qu'il n'y a pas vraiment de raccourci, là. Faut que tu améliores ta condition physique. Puis ce qui va le plus t'aider, ça va être d'améliorer ton VO2 max, ta capacité à produire beaucoup d'énergie à partir de l'oxygène en dégradant des glucides. Puis pour améliorer ça, ben ça va être le truc, ça va être de faire des intervalles qui sont relativement courts. Fait que des séances d'intervalles qui vont intégrer des intervalles de 1 minute à 3 minutes environ, ça va être ça qui va le plus te permettre d'améliorer ton VO2 max.
OK.
Fait que, mais est-ce que c'est un objectif en soi de vouloir être moins soufflé puis d'améliorer ta condition physique? Pour certaines personnes, oui. Pour certaines personnes, non. Faire des intervalles de 1 à 3 minutes, c'est pas l'affaire la plus agréable au monde. Là. Ça va générer un niveau d'essoufflement très très élevé puis un inconfort qui est quand même grand. Fait que c'est pas quelque chose que je suggérerais à quelqu'un qui commence et qui veut commencer à apprécier la course à pied. Mais mettons quelqu'un qui court depuis quelques mois, qui dit « Ah, moi, à telle vitesse, j'aimerais ça me sentir moins essoufflé, puis j'aimerais ça me sentir améliorer ma condition physique puis améliorer mon niveau de performance en course à pied, parce que ça me motive, puis j'ai le goût de faire ça. » Ben là, d'intégrer des intervalles, ça peut être une bonne idée.
OK. Parfait.
Mais c'est ça. À moins de vraiment aimer la douleur, là, ça existe des gens qui aiment beaucoup la douleur, mais à part dans ces situations-là, ma suggestion, ça va pas être de faire des intervalles comme premier type d'entraînement. Là,
mm-hmm. Ouais. Okay. Puis en même temps, tu vas juste être moins essoufflé plus que tu cours, plus que tu es habitué. Naturellement, tu vas venir un petit peu moins essoufflé, mais tu vas toujours l'être un peu quand même si tu es bon.
Oui, là, tu vas toujours être essoufflé. Mais, tu sais, mettons, je vais donner un exemple. Une chose qu'on mesure souvent là, en course à pied, c'est la VAM, la vitesse aérobie maximale. C'est la vitesse à laquelle tu vas. C'est théorique là, comme concept, là, mais dans le fond, c'est la vitesse à laquelle tu vas quand tu utilises 100% de ton VO2 max. Il y a des gens pour qui cette valeur-là, ça va être 20 km/h. Ça veut dire que quand ils courent là, à 20 km/h, l'énergie qu'ils utilisent provient de la dégradation des glucides puis avec l'oxygène, puis le gros de son énergie provient de ça. Cette personne-là, qui a une VAM de 20 km/h, quand elle court à 10 km/h, elle est à 50% de son VO2 max, de sa VAM. Une autre personne, mettons, qui a un niveau de condition physique moins élevé, elle, sa VAM, mettons, c'est 12. OK? Ben, puis ça, c'est probablement plus proche de ce que la plupart des gens dans la société ont. Là. Mettons 10, 12, 13, 14. Mettons, ça va être des niveaux, mettons, plus normaux. 20 km/h, c'est quelqu'un de vraiment très en forme. Ben, ces gens-là, quand ils vont courir à 10 km/h, ils vont être essoufflés parce qu'ils sont à 70, 80, 85% de leur VAM, de la vitesse à laquelle ils vont quand ils utilisent juste de l'oxygène, la vitesse maximale à laquelle ils vont quand ils utilisent juste de l'oxygène puis des glucides pour produire de l'énergie. Fait que mettons la même vitesse pour deux personnes qui ont des niveaux de performance différents va donner un niveau d'essoufflement complètement différent.
Mm-hmm.
La personne qui a une VAM de 20, quand elle court à 10 km/h, est capable de soutenir une conversation très facilement parce que dans le fond, c'est comme si le monde normal marchait. Le monde normal, quand il marche, ben, ils sont capables de soutenir une conversation et ils ne sont pas vraiment essoufflés. Ben, les gens qui ont une VAM de 20, quand ils courent à 10 km/h, ne sont pas essoufflés.
Je comprends.
C'est ça.
Parfait. Il n'y a pas de solution miracle de toute façon pour ne pas être essoufflé.
La seule façon d'être moins essoufflé pour une vitesse donnée, c'est d'améliorer sa condition physique.
Bon, ça c'est réglé. Après ça, comment on fait pour ne pas avoir un point dans les côtes? Puis ça, c'est une autre chose pourquoi j'aime pas ouvrir. J'ai tout le temps un point d'écoute à chaque fois, puis ça prend pas de temps, là. Ça prend pas 30 minutes, ça me prend 5 minutes à courir.
Ça, c'est vraiment à poche, là, mais on sait pas vraiment d'où ça vient, les points. Fait que les points de côté, là, c'est quelque chose qui est mal connu, qui est pas si étudié que ça. Dans le fond, une des façons, on sait même pas c'est quoi la structure, là, on s'imagine qu'il y a des crampes, il y a des gens qui c'est probablement des crampes dans le diaphragme, il y a des gens probablement que c'est des crampes dans les muscles qui entourent les intestins, fait qu'il y a plusieurs théories autour de ça. On peut pas savoir ton point de côté, il est causé par quoi. Par contre, il y a deux grands facteurs de risque. C'est Les activités qui ont beaucoup d'impact augmentent le risque d'avoir des points de côté. Puis les activités qui génèrent de l'essoufflement augmentent le risque d'avoir des points de côté. Fait que, mettons, la course à pied, c'est un bon sport pour avoir des points de côté parce que ça génère de l'essoufflement, puis aussi il y a des impacts.
Mm-hmm.
Un sport comme l'équitation peut générer des points de côté, surtout parce que, mettons, il y a des impacts. Puis un sport comme le cyclisme va générer des points de côté parce qu'il y a de l'essoufflement, mais pas beaucoup parce qu'il y a des impacts. La course à pied combine les deux, fait que il y a deux facteurs de risque de présent. Ce qu'on sait, c'est que les gens qui s'entraînent, de plus ça fait longtemps que tu fais de la course, moins tu as de points de côté. Fait que c'est ça, c'est l'autre facteur. Dans le fond, c'est comme si on s'habituait aux impacts et à l'essoufflement, puis notre corps devient de moins en moins surpris par cet effort-là. Fait que tu as beaucoup moins de chance quand tu es un coureur ou une coureuse qui court depuis longtemps d'avoir des points de côté. Fait qu'il n'y a pas des millions de trucs qu'on peut faire pour les prévenir. Ce que tu peux faire pour les prévenir, c'est t'entraîner de façon moins intense pour être moins essoufflé. Quand la crampe est apparue, tu peux essayer de l'étirer ou de te pencher vers ce côté-là pour essayer de diminuer la douleur. Fait que ça, c'est une autre chose que tu peux faire. Puis après ça, ben, tu peux intégrer de la marche. Dans la marche, il y a moins d'impact. Fait que ça va t'aider à moins avoir de points.
OK. Fait que, puis là, il y en a qui disent que ça vient d'un manque de sel ou d'électrolytes. Ça serait un mythe. Ça n'a pas rapport avec ton alimentation. Parce qu'il y a tellement
de monde qui manque pas de sel et d'électrolytes que les crampes, que les points de côté, je recommence. Il y a beaucoup de monde qui ont pas de débalancement électrolytique puis qui ont quand même des points de côté.
Mm-hmm.
Dans le fond, c'est peut-être un facteur de risque, mais on n'en est même pas certain. Fait que c'est ça. Fait que ça vaut pas nécessairement la... Tu peux l'essayer, là, dans le fond, si tu veux, de prendre une tablette de sel ou prendre un Gatorade là, en courant pour essayer de voir si ça améliore ou ça diminue ta quantité de points de côté. Mais il n'y a rien de validé scientifiquement pour dire « Ah, les gens qui ont des points de côté, c'est parce qu'ils ont passé de sodium dans leur sang. »
Puis, est-ce que c'est la même chose avec la nourriture, de manger avant? Est-ce que ça a des risques?
Ça augmente les risques aussi. Dans le fond, d'avoir comme l'estomac plein, là, ça, comme... quand je cours, il y a des impacts. Si en plus, il y a du stock, si on veut, dans mon système digestif, ben, ça va augmenter mon risque là, d'avoir des points de côté. Puis en plus, ben, ça va... En plus, c'est pas une bonne idée parce que si je mange quelque chose de très lourd, ça va amener beaucoup de sang vers mon estomac. Puis vers mon système digestif. Fait que là, il va en avoir moins pour courir. Puis là, si je me mets à courir, ben, il va falloir que mon corps enlève ce sang-là qui est vers mon système digestif et qu'il le répartisse plus vers mes muscles. Fait que là, ça va diminuer la quantité de sang qui va vers mon estomac. Ça peut m'amener des nausées, des choses comme ça. Fait que, tu sais, manger lourd avant d'aller courir, surtout si c'est un entraînement qui est intense, c'est pas une bonne idée.
OK.
Ouais. Ça va aider à rendre la course plus agréable si tu manges léger avant d'aller courir.
Parfait. C'est noté pour ça. Sinon, ben, tu sais, si on revient à moi qui fais juste de la musculation, est-ce que c'est mieux pour ma santé d'intégrer du cardio aussi à ma musculation ou je pourrais continuer toute ma vie à juste faire de la musculation, pas faire de cardio ou très peu, là, à part dans mes échauffements, donc. Puis, tu sais, je pourrais être en santé pareil autant... Ou faut que je développe mon cardio?
Ben, c'est sûr que d'avoir une bonne capacité cardio-respiratoire, c'est bon. C'est bon pour la santé, puis c'est bon pour la condition physique en général. Fait que j'aurais tendance à dire que d'intégrer des efforts qui vont solliciter ton cardio, c'est une bonne idée. Est-ce que tu peux les solliciter via de la musculation? La réponse est oui. T'sais, si tu veux... Mettons, tu fais des enchaînements de... Tu fais un circuit de musculation, là. Fait que, mettons, tu vas faire des burpees, tu vas faire des squats, tu vas faire... Tout... Tu vas enchaîner plusieurs exercices avec des charges relativement faibles qui vont te permettre de faire un plus grand volume. Mais tu vas solliciter ton système cardiovasculaire puis tu vas réussir à faire ton cardio en faisant de la muscu, dans le fond. Fait que c'est pas absolument nécessaire d'arrêter de faire de la muscu pour faire ton cardio. Tu peux... juste changer la façon de faire ton entraînement de musculation puis pour intégrer comme un entraînement qui va solliciter ton système cardiovasculaire puis ça se fait.
Okay.
Est-ce qu'il y a des bénéfices à faire, mettons, un entraînement spécifique de cardio pour quelqu'un qui fait de la musculation? Si tu fais de la musculation, pas dans un objectif là, de prise de masse ou de trucs
comme ça. C'est ça, il y a ça.
Comment?
Il y a ça. C'est surtout pour ça, je pense. Ben, au début, c'est vraiment comme comment j'ai commencé vraiment plus la musculation. C'était pour ça, cet objectif-là de prise de masse. Fait que...
Ouais. Ben, c'est sûr que faire du cardio, ça va pas t'aider à prendre de la masse musculaire.
Je vais pas prendre du poids en allant courir. C'est pour ça que j'ai comme jamais vraiment développé la course. Ouais. J'en faisais quand j'étais plus jeune, mais j'ai toujours plus été vers la musculation parce que je voulais pas perdre du poids, je voulais prendre du poids. Ouais. Mais tu sais, d'intégrer une journée de course, mettons, dans ma semaine à travers de ma musculation, est-ce que je vais perdre mon poids, ma musculation, tu sais?
Ben, ça, c'est une crainte que j'entends souvent. C'est sûr que si tu fais un entraînement, mettons, tu vas courir 30 km, tu te vides au complet de ton énergie, là, tu fais un entraînement très épuisant, ben, ça va avoir un effet. Ça va pas t'aider à prendre de la masse musculaire, là, tu sais. Mm-hmm. Ça va même avoir l'impact inverse. Tu vas avoir plus tendance à perdre de la masse musculaire si tu fais beaucoup d'entraînement en endurance puis que tu vas souvent puiser dans tes réserves. Ça va avoir un effet plus catabolique que anabolique. Dans le fond, catabolique, c'est quand tu dégrades tes muscles pour... c'est quand tu dégrades ton corps, si on veut, pour produire de l'énergie puis tu perds du poids. Anabolisant, c'est quand... tu sais, des stéroïdes, on les dit anabolisants parce qu'ils vont créer... Ils vont t'aider à créer plus de muscles puis à prendre de masse musculaire. Fait que, dans le fond, de s'entraîner très fort, de façon très intense, dans des sports d'endurance, ça va avoir un effet plus catabolique. Fait que ça va te nuire dans ton objectif de prendre de la masse musculaire.
Mm-hmm.
Par contre, si tu fais des entraînements qui sont pas exténuants, là, dans le fond, dans lesquels tu vas pas arriver comme complètement fatigué, ça, l'impact va être vraiment minime. Puis si tu voudrais t'assurer d'avoir un impact neutre, voire bénéfique, tu pourrais faire des intervalles très courts. Fait que, mettons, des intervalles proches des vitesses de sprint. Là, si tu fais pas... si présentement, là, t'es sédentaire, c'est vraiment une mauvaise idée d'aller faire des intervalles, d'aller faire du sprint. Sauf que si tu t'entraînes souvent en musculation, tu veux intégrer ça, tu l'intègres doucement, ben de faire des sprints ou des intervalles très courts de 10, 15, 20, 30 secondes, ben ça peut avoir un effet bénéfique sur ta masse musculaire, puis ou à tout le moins neutre, là, tu sais, ça va pas t'empêcher de prendre de la masse musculaire parce que c'est des intervalles qui sont très courts, puis ils ont moins d'effet, c'est moins un message fort à ton corps de pas prendre de muscle, mettons.
OK. Puis ben c'est sûr qu'il y a l'alimentation là-dedans aussi, là, c'est faut que je mange beaucoup pour prendre du poids.
C'est sûr que pour prendre de la masse musculaire, il faut manger plus.
C'est ça. Fait que si je cours, si j'intègre la course puis je continue à manger plus que ce que je dépense, je devrais être correct.
Ben ça devrait pas. Je peux pas te dire que mettons d'intégrer la course, ça va t'aider à prendre du muscle.
Non, c'est ça. Mais ça va aider à mon cardio, puis ça va pas me faire perdre du poids.
Exact. C'est ça. Mais tu sais, je garderai des séances qui sont relativement courtes, là, mettons 15, 20, max 30 minutes. Là. Mettons, l'objectif, c'est de prendre de la masse musculaire, je suggérerais pas de faire des séances de cardio au-delà de 30 minutes. Ça serait pas mal mon maximum. Tu peux en intégrer un petit peu dans ton échauffement, puis j'essaierai d'intégrer des intervalles relativement courts là, à l'intérieur de l'entraînement. Ça serait peut-être ça ma suggestion de base, là, mettons.
OK, parfait. Ouais. Ben, je vais essayer de commencer à faire ça. fait que c'est super intéressant. On a pas mal fait le tour de notre sujet là, de la course n'est pas faite pour tout le monde. Fait que finalement, ben la course, c'est vrai que la course est peut-être pas faite pour tout le monde, mais en même temps, tout le monde peut courir. C'est pas tout le monde qui aurait du plaisir à courir, mais tout le monde qui veut est capable.
Exact. Si t'as le goût, là, moi, j'ai... C'est pas vrai, c'est pas tout le monde, là, dans le sens que tu dis. Je veux dire, évidemment, si, je sais pas, t'as de l'arthrose avancée à la hanche, puis t'es pas capable de courir, ben je veux dire, quand même t'essaierais ad vitam aeternam, ça se pourrait que tu ne puisses jamais courir. Mais pour au moins 90-95% des gens, c'est possible d'arriver à courir, mettons, un 5 km ou un 10 km, là, je pense.
Mm-hmm.
Si on se prépare comme il faut.
Super, bon, en tout cas, on a plein de trucs là, pour commencer à courir puis aimer courir. Fait qu'on devrait être bon avec ça.
Ça devrait marcher.
Merci.
De rien.
Merci d'avoir été avec nous pendant le podcast. On espère que vous avez apprécié nos discussions. Si jamais vous avez une idée de sujet que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous écrire à info@commercialdefi.ca. Ça va nous faire plaisir de prendre des suggestions. Puis si la course à pied et la santé en général vous intéressent, on vous invite à regarder le Défi Entreprise. C'est un programme clé en main de santé et de bien-être en milieu de travail. Comment ça fonctionne? C'est l'entreprise qui s'inscrit en premier, puis elle fait la promotion du défi à l'interne à ses employés qui, eux, vont ensuite s'inscrire individuellement pour pouvoir participer. Donc, pendant 12 semaines, les participants ont accès à des outils d'activité physique, de nutrition et de santé mentale. Puis le programme se termine avec un événement rassembleur de course à pied avec l'option de faire du yoga, du zumba ou du cardio-fit. Le défi entreprise permet de tisser des liens durables entre les employés en plus de favoriser la santé dans les organisations. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter le site web défientreprise.com. Bonne semaine!